Il est 8h23 à Paris, la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, pression maximale à Hong Kong.
La scène semble sortie d'un film de Bruce Lee, s'exclame le Figaro, dribblant les projecteurs de police, striant la nuit de Hong Kong, des corps frêles bravent la pesanteur en s'agrippant à des cordes au-dessus d'une passerelle d'autoroute. Ils descendent en rappel à la hâte, suspendus dans la jungle urbaine et sautent sur le macadam. Là, une moto surgit et embarque les fugitifs, prenant la police anti-émeute de vitesse pour disparaître sur la bretelle d'autoroute, slalomant entre les gratte-ciel de Kowloon. Grâce à cette manœuvre culottée, une poignée d'étudiants ont réussi à s'échapper hier soir du campus de l'Université Polytechnique de Hong Kong, assiégé par les forces de l'ordre, nouvel abcès de fixation dans la grave crise politique qui agite l'ancienne colonie britannique depuis 6 mois.
Commentaire du Figaro, la crise à Hong Kong semble approcher d'un dangereux point de rupture.
Oui, des menaces de couvre-feu et de tirs à balles réelles sont brandies par la police alors que les manifestants armés de briques, d'arc et de flèches durcissent la confrontation. Un règlement de compte façon hockey choral se profile autour de cette université. S'il s'agit du dernier acte de la révolte entamée il y a 6 mois, Pékin est bien parti pour l'emporter, estime le journal. En effet, pointe encore le Figaro, la stratégie du boa constrictor a porté ses fruits. Des quelques 2 millions de Hongkongais qui défilaient en juin dernier pour la défense de la démocratie, il ne reste que 500 ou 600 jeunes radicalisés, encerclés dans une nasse où les renvoient les forces de l'ordre lorsqu'ils tente de s'en échapper. Désormais, relève de son côté Libération, le spectre d'une intervention de l'armée chinoise sur le territoire hongkongais et d'un remake du massacre du mouvement démocratique de Pékin sur la place Tiananmen, impensable il y a quelques semaines et dans toutes les têtes. Hier lundi, l'ambassadeur chinois à Londres, Lu Xiaoming, a prévenu que Pékin ne resterait pas sans rien faire si la situation devenait incontrôlable. La sortie dans les rues samedi de soldats chinois de la garnison locale de l'armée populaire de Chine, un fait rarissime, a sonné comme un avertissement. La police a également annoncé qu'elle tirerait à balles réelles, donc. Selon le professeur de sciences politiques Shou Po-chung, interviewé par Libération, cette stratégie d'escalade pourrait bien avoir pour but l'annulation des élections locales prévues le 24 novembre. Des centaines de jeunes issus du mouvement pro-démocratie en effet s'y présentent et s'ils l'emportent, eh bien ils auront le pouvoir d'élire le chef de l'exécutif, ce que Pékin veut à tout prix éviter.
On reste avec Libération qui nous emmène sur un autre lieu de contestation, Bagdad, la capitale irakienne, dont le centre est occupé depuis maintenant 1 mois par des milliers de protestataires.
Oui, des centaines de tentes ont été dressées, un campement géant en plein cœur de Bagdad, soustrait à la circulation automobile comme à la présence policière, relate le journal de la grande place Tahrir, qui n'a jamais mieux porté son nom de Libération. Ce campement déborde sur les avenues, sur les jardins, sur les souterrains environnants. Des milliers de protestataires occupent les lieux en permanence, des dizaines de milliers d'autres engagés ou soutenant le mouvement y passe tous les jours. Entrée dans sa 4e semaine, cette contestation en Irak ne cesse de gagner du terrain, du soutien et de la détermination, rapporte encore Libération. La grève générale de dimanche dernier a été largement suivie par les fonctionnaires, étudiants, enseignants et professions libérales qui ont aussi grossi les rangs des manifestants à Bagdad comme dans d'autres villes du sud du pays.
L'exaspération des Irakiens est facile à comprendre, pointe Libération.
16 ans après la chute de Saddam Hussein, 2 guerres civiles, des attentats à répétition, plus meurtriers les uns que les autres, le retrait des troupes américaines en 2011, une occupation partielle du territoire par l'État islamique, des gouvernements plus ou moins fantoches et en tout cas défaillants et corrompus, le peuple irakien se retrouve derrière ce slogan « On veut un pays ». Une revendication à la fois simple et vertigineuse, s'exclame Libération. Simple au point de rassembler au-delà des clivages communautaires entre sunnites et chiites qui structurent pourtant le pays. Simple au point de vaincre la peur de la répression du régime. Simple au point de mettre à distance les deux puissances qui ne sont jamais très loin du théâtre irakien, les États-Unis et l'Iran. Vertigineuse, tant le chemin vers la constitution d'un État libre et indépendant semble pavé d'obstacles. Vertigineuse, tant on se demande justement quel rôle les deux puissance en question joue ou s'apprête à jouer devant ce printemps en novembre.
En France, pont mortel lance le Midi Libre en première page avec cette photo saisissante du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn qui s'est effondré hier faisant 2 morts.
Des tonnes de gravats qui gisent dans l'eau, relate la dépêche du Midi, des câbles qui pendent dans le vide et un ouvrage de béton dispersé comme un fragile château de cartes. Il y a aussi ces bataillons de secouristes qui vont et viennent sous le regard des habitants incrédules. C'est à une véritable scène de désolation que l'on assiste à Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne. Alors à qui la faute ? s'interroge la Dépêche. Il y a peut-être la vétusté du pont construit dans les années 30, mais aussi et surtout ce poids lourd de 44 tonnes qui s'est engagé sur l'ouvrage alors que son accès était formellement interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes.
Il n'empêche, un certain commentateur voit dans ce drame comme le signe d'une certaine déliquescence de l'État.
Oui, la rupture de Mirepoix ne doit pas être réduite à un drame isolé ou bien à l'erreur éventuelle d'un individu, affirme ainsi le courrier Picard. Au-delà du symbole facile d'un pays qui se lézarde, elle est une nouvelle alerte majeure. Comme une société, un pont repose sur de solides fondations, des piliers résistants et un tablier stable pour tenir ensemble face aux aléas. Tout est conçu avec des marges de tolérance quand elles n'existent plus. La priorité est d'agir vite pour réparer ce qui flanche avant qu'il ne soit trop tard. Les dernières nouvelles d'Alsace renchérissent. Le symbole du pont rompu reste d'une portée émotionnelle forte. L'effet ravageur sur ceux qui doutent de l'implication de l'État dans les affaires locales. Les maires n'ont de cesse de regretter leur impuissance à traiter tous les dossiers échoués sur leur bureau. Une catastrophe comme celle arrivée sur le Tarn contribue à nourrir la conviction qu'un fossé sépare deux rives de la République. D'un côté, l'Élysée, intouchable, où tout se décide. De l'autre, les mairies au contact des faits, où toute la vie citoyenne se cristallise.
La revue de presse signée Frédéric Couteau, à retrouver en ligne.